Guillaume courut aux cuisines, moi à la porte du réfectoire, bataillant pour l'ouvrir de l'intérieur, et j'y parvins non sans un long effort, car l'agitation me rendait gauche et inhabile. Je sortis sur le plateau, courus vers le dortoir. Je compris alors que je n'aurais pas pu réveiller les moines un à un, et je fus bien inspiré de me précipiter à l'église où je cherchais le chemin de la tour campanaire. Comme j'y arrivais, je me suspendis à toutes les cordes en sonnant le tocsin. Je tirai avec force, et la corde du bourdon, en remontant, m'entraînait avec elle. Dans la bibliothèque, j'avais eu le dos de mes mains brûlé, mes paumes étaient encore saines, et je me les brûlais en les faisant glisser le long des cordes, jusqu'au moment où elles furent en sang et que je dus lâcher prise. Mais j'avais fait suffisamment de bruit. Je m'élançai au dehors, à temps pour voir les premiers moines qui sortaient du dortoir, tandis qu'on entendait au loin les voix des servants qui s'agglutinaient sur le seuil de leur logement. Je ne pus m'expliquer clairement parce que j'étais incapable d'exprimer un mot, et les premières paroles qui me vinrent aux lèvres furent formulées dans ma langue maternelle. De ma main ensanglantée, j'indiquai les fenêtres de l'aile méridionale de l'édifice, dont l'albâtre laissait transparaître une lueur anormale. Je me rendis compte à l'intensité de la lumière que le temps de descendre et de sonner les cloches, le feu s'était largement propagé à d'autres pièces. Toutes les fenêtres de l'Africa et toute la façade entre l'Africa et la tour orientale brillaient maintenant de clartés intermittentes. « Oh ! Apportez de l'eau » criai-je. Sur le moment, personne ne comprit. Les moines étaient si accoutumés à considérer la bibliothèque comme un lieu sacré et inaccessible qu'ils n'arrivaient pas à réaliser qu'elle était menacée par un accident vulgaire, comme peut l'être une chaumière de paysans. Les premiers qui levèrent les yeux vers les fenêtres firent le signe de la croix en murmurant des mots d'épouvante, et je compris qu'ils croyaient à de nouvelles apparitions. Je m'accrochai à leurs robes, les implorai de comprendre, jusqu'à ce que quelqu'un traduisît mes sanglots en paroles humaines. C'était Nicolas de Morimonde qui dit « La bibliothèque brûle !»«
Voilà !»
murmurai-je en me laissant tomber épuisé sur la terre. Nicolas fit preuve d'une grande énergie. Il cria des ordres aux servants, donna des conseils aux moines qui l'entouraient, envoya quelqu'un ouvrir toutes les portes de l'édifice, exhorta les présents à chercher des seaux et des récipients de n'importe quel genre, envoya vers les sources et les réserves d'eau de l'enceinte. Il ordonna aux vachers d'employer les mulets et les ânes pour transporter des jarres. Si ces dispositions avaient été données par un homme investi d'autorité, on les eût exécutées sur le champ. Mais les servants étaient habitués à recevoir des ordres de Remigio, les copistes de Malachi, tous de l'abbé. Et aucun des trois n'était hélas présent. Les moines, de leurs yeux, cherchaient l'abbé pour obtenir information et réconfort. Et ils ne le trouvaient pas. Quand moi seul savais qu'il était mort, ou allait mourir en ce moment, muré dans un boyau asphyxiant qui se transformait à présent en un four, en un taureau de Phalaris. Nicolas poussait les vachers d'un côté, mais quelque autre moine, animé de bonnes intentions, les poussait de l'autre côté. Certains frères avaient visiblement perdu leur calme, d'autres étaient encore engourdis de sommeil. Moi, j'essayais d'expliquer, car j'avais tout à fait recouvré l'usage de la parole, mais il est nécessaire de rappeler que j'étais quasiment nu, après avoir jeté mon froc aux flammes, et la vue du jeune homme que j'étais, ensanglanté, le visage noirci de suie, le corps tout juste recouvert de duvet, hébété maintenant par le froid, ne devait certes pas inspirer confiance. Enfin, Nicolas parvint à entraîner des frères et d'autres gens dans les cuisines, qu'entre-temps quelqu'un avait rendu accessible. Quelqu'un d'autre eut le bon sens d'apporter des torches. Nous trouvâmes les lieux en grand désordre, et je compris que Guillaume devait l'avoir mis sans dessus-dessous pour chercher de l'eau et des récipients propres au transport. C'est alors précisément que je vis Guillaume qui paraissait à la porte du réfectoire, le visage couvert de petites brûlures, l'habit enfumé, une grande marmite dans les mains, et j'éprouvai de la pitié pour lui. Pauvre allégorie de l'impuissance. Je compris que, même s'il avait réussi à transporter au second étage un chaudron d'eau sans le renverser, et même s'il l'avait fait plus d'une fois, le résultat devait avoir été bien mince. Je me souvins de l'histoire de saint Augustin, quand il voit un enfant qui tente de transvaser l'eau de la mer avec une cuillère. L'enfant était un ange, et il agissait ainsi pour se jouer du saint qui prétendait pénétrer les mystères de la nature divine. Et comme l'ange, Guillaume me parla en s'appuyant épuisé au chambranle de la porte. « C'est impossible. Nous n'y réussirons jamais, fût-ce avec tous les moines de l'abbaye. »
« La bibliothèque est perdue. »
Contrairement à l'ange, Guillaume pleurait. Je me serrai contre lui, tandis qu'il arrachait un linge d'une table et tentait de me couvrir. Nous nous arrêtâmes pour observer, défait désormais, ce qui se passait autour de nous. C'était une course désordonnée de gens. Certains montaient les mains nues et se croisaient dans l'escalier à vis avec d'autres qui, les mains nues, poussés par une sotte curiosité, avaient déjà grimpé et dégringolaient maintenant pour chercher les récipients. D'autres, plus avisés, cherchaient aussitôt chaudrons et bassines pour s'apercevoir que dans les cuisines, il n'y avait pas suffisamment d'eau. Tout à coup, l'immense salle fut envahie par des mulets qui transportaient des jarres et les vachers qui les menaient les déchargèrent et se disposèrent à porter l'eau en haut. Mais ils ne connaissaient pas le chemin pour monter au scriptorium, et il fallut du temps avant que certains copistes les missent au courant. Et quand ils montaient, ils se heurtaient à ceux qui descendaient terrorisés. Des jarres se brisèrent, et l'eau se répandit à terre. D'autres furent passés le long de l'escalier à vis par des mains secourables. Je suivis le groupe et me trouvai dans le scriptorium. De l'accès à la bibliothèque provenait une fumée dense. Les derniers qui avaient tenté de se risquer plus haut vers la tour orientale revenaient déjà en toussant, les yeux rougis, et ils déclaraient qu'on ne pouvait plus pénétrer dans cet enfer. Je vis alors Bensé. Le visage altéré, il montait les cuisines avec un énorme récipient. Il entendit ce que disaient les rescapés et il les apostropha. « L'enfer vous avalera tous autant que vous êtes, tas de lâches !» Il se tourna comme pour chercher une aide et il me vit. « Atso ! » s'écria-t-il. « La bibliothèque ! La bibliothèque !» Il n'attendit pas ma réponse. Il courut au pied de l'escalier et pénétra hardiment dans la fumée. Ce fut la dernière fois que je le vis.